Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, grand débat, Macron a-t-il trouvé son modèle social ? C'est quelque chose que les gens de radio savent bien. Il est toujours périlleux d'enregistrer une émission qui traite d'actualité, ne serait-ce qu'avec un léger différé, car on ne sait jamais ce qui peut se passer entre le moment de l'enregistrement et celui de la diffusion. Emmanuel Macron y a été confronté avant-hier. Le chef de l'État devait s'exprimer à 20h sur les chaînes de télévision et de radio pour tirer les enseignements du grand débat national et annoncer une batterie de mesures. Tout était en boîte depuis la fin de l'après-midi jusqu'à ce que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne vienne perturber l'agenda présidentiel. Alors les mesures seront annoncées plus tard, mais on les trouve déjà dans la presse. Dans sa dernière édition, le journal Le Monde en évoque quelques-unes. Réduction du nombre de parlementaires, baisse de l'impôt sur le revenu, réindexation des petites retraites, pas de fermeture d'école envisagée jusqu'en 2022, sauf l'ENA dont la suppression est envisagée. Et depuis le début du quinquennat, de nombreuses réformes ont été engagées qui bousculent le modèle social français. On peut citer la loi travail, la réforme de l'assurance chômage, bientôt celle des retraites. Alors est-ce que les mesures que doit annoncer le président de la République, si elles sont maintenues en l'état, s'inscrivent dans la même logique que les précédentes ? Grand débat, Emmanuel Macron a-t-il trouvé son modèle social ? Il y a pour en discuter ce soir deux sociologues. Julien Damon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale.
Ce qui est beaucoup mieux que l'ENA.
Que vous n'avez pas fait.
Ni le N3S, ni l'ENA.
Bon. Par contre, vous publiez beaucoup. Le dernier de vos ouvrages, Quelle bonne idée, 100 propositions, plus ou moins saugrenues, dans l'espoir de refaire le monde. C'est publié aux presses universitaires de France. Vous y préconisez notamment de privatiser Radio France.
Ah mais pas que Radio France. Je préconise de privatiser toute la sphère de l'audiovisuel public. Et je proposais aussi de cesser de critiquer les énarques. Vous voyez, là je me suis planté.
Bon, alors si c'est pas que Radio France, c'est beaucoup plus rassurant. Pour discuter avec vous, Nicolas Duvoux, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, donc également, professeur des universités à Paris 8. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Votre dernier ouvrage, vous, c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé, qui s'intitule « Où va la France populaire ?». C'est une coédition avec les PUF, là encore, et la vie des idées. Alors, je voudrais qu'on démarre la discussion avec ces millions d'euros de promesses de dons pour la réhabilitation, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Au dernier pointage, mais ça a sans doute augmenté depuis, j'en étais à plus de 800 millions d'euros. Est-ce que c'est peut-être la preuve que nous vivons dans une société plus solidaire qu'on ne le dit ?
C'est d'abord
Nicolas Duvoux.
C'est d'abord la marque qu'on est dans une société dans laquelle dire les revenus et le patrimoine se sont concentrés dans les segments les plus élevés, c'est-à-dire les riches se sont très fortement enrichis. De nombreux travaux de Thomas Piketty notamment l'ont montré, et le don est finalement un témoignage de cette disponibilité de ressources à des échelles très importantes de la part de familles, mais d'entreprises également.
Oui, parce qu'il faut rappeler à quelques noms de famille, Arnaud, Pinault, Bettencourt, Bouygues, bon, je ne les cite pas toutes.
Voilà, on a là un révélateur d'une évolution de notre société. Et puis, à travers ces dons, on a évidemment une manifestation de solidarité, d'élan, de reconstruction d'un élément du patrimoine national. Mais on a aussi, ça apparaît moins dans les gros titres des journaux, eh bien, des mécanismes de dons qui sont soutenus par des déductions fiscales à hauteur de 66% pour les dons qui y feront effectivement appel. Et donc, on a des mécanismes de personnalisation de l'aide qui, là, pour le coup, sont très influencés par des modèles philanthropiques venus des États-Unis, où il y a de grandes icônes, notamment Bill et Melinda Gates. Et on voit une partie des élites françaises entrer dans ce monde où ce qui est, pour le dire simplement, une partie de ce qui a été enlevé à l'impôt revient en partie à la société à travers des dons.
Est-ce que vous voyez les mêmes choses, vous, Julien Damon, dans cet élan de générosité qui, si j'ai bien compris ce qu'a dit Nicolas Duvoux, doit être mis avec quelques guillemets?
Pas tout à fait. D'abord, il n'y a pas que les riches qui donnent. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé là des sommes qui, en effet, pas presque dépassent l'entendement, qui peuvent être celles versées par des familles de milliardaires ou de très grandes entreprises. Mais pour arriver à ce chiffre que vous évoquiez de plusieurs centaines de millions d'euros, le Premier ministre, je crois, parlait tout à l'heure même de 1 milliard d'euros, c'est que tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met parce que les mécanismes du don, d'ailleurs, sont facilités par le numérique. Et le Premier ministre lui-même, je crois, faisait allusion à des problèmes qui pouvaient se poser de grivellerie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir en quelques heures un site internet qui va vous dire « Donnez-moi quelques sous, vous participerez à la reconstruction de Notre-Dame ». Mon premier mot, c'est de dire « Il n'y a pas que les riches qui donnent, il y a un mouvement général pour donner ». La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'élan de solidarité, même d'unité nationale autour de ce monument, et d'unité qui se brise avec immédiatement les bisbilles richophobes habituels qui sont de dire « Regardez-moi ces nantis qui osent donner de l'argent, alors que deux tiers de ce qu'ils donnent, eh bien, ça passera par les impôts ».
C'est quelque chose qui vous surprend, ça, Julien Damon ?
La bisbille et la bagarre immédiate. Un petit peu.
Non, mais enfin,
quand
en tout cas, le fait que l'on remarque qu'il y a des familles qui sont en mesure très rapidement de mobiliser des sommes d'argent aussi
sur le montant des patrimoines. Parce que c'est aussi le montant du patrimoine. C'est bien la première fois qu'en France, je crois, d'un seul coup, il y a de telles annonces. Et de telles annonces, il faut les préciser au regard de ce que Nicolas évoquait. C'est que si Monsieur Pinault dit « je donne 100 millions d'euros », immédiatement, les bonnes âmes vont dire « ah non, attendez, les deux tiers de ça, ce sont des impôts, c'est dégoûtant, monsieur Pinault, et il nous pique nos sous ». Mais il remet une couche en expliquant que finalement, il ne va pas passer par la déduction fiscale, ce qui fait que ce qui lui coûtait 33 millions d'euros va lui coûter effectivement 100 millions d'euros. Ce sont des chiffres absolument considérables, c'est vrai. Et ce qui est très français, c'est de se concentrer sur cela, de ne pas s'en féliciter et de ne pas s'intéresser à la dispersion colossale des dons qui doit faire que tout le monde peut donner un tout petit peu, et qu'on ne s'arrête pas au débat sur les milliardaires.
Vous qui avez travaillé sur la philanthropie américaine, Nicolas Duvoux, est-ce que vous y voyez justement une manifestation très française que cette défiance à l'égard de ces grandes fortunes qui manifestent leur générosité pour reconstruire la cathédrale?
Pas du tout. Quand Rockefeller a créé la première fondation à portée générale, il y a des membres, des représentants du Congrès qui disaient que l'argent de Monsieur Rockefeller serait parfaitement utile à la collectivité s'il servait à éviter qu'il y ait d'autres personnes qui ne se comportent comme lui. Donc la critique et le scrupule démocratique vis-à-vis de l'action philanthropique qui est en apparence très évidemment généreuse et louable, elle est fortement ancrée dans la tradition politique américaine. Et donc, évidemment, dans les dernières décennies, on a vu la montée en puissance dans un contexte, là, pour le coup, de démantèlement beaucoup plus avancé de l'État social que ce qu'on peut observer en Europe. Effectivement, une valorisation très, 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 très large des actions philanthropiques. Ce qui, là où, pour discuter un peu les remarques de Julien Damon, enfin, c'est cet événement, il a bien sûr une portée unique et un peu de dévoilement d'une solidarité, d'une unité, comme ça a été dit, mais il s'inscrit dans une histoire et ces polémiques ne naissent que parce que on est dans une séquence politique qui a été ouverte avec la suppression de l'impôt de solidarité de la fortune et son remplacement par l'IFI qui a donné à une partie des citoyens le sentiment finalement que les plus riches, c'est-à-dire les détenteurs de patrimoine mobilier et non immobilier, étaient exonérés de la contribution de solidarité. Donc c'est normal que la critique émerge à ce moment-là, parce que on voit là des gens qui reviennent par le don mettre des choses qu'ils ont gagnées par l'impôt il y a un an. Et deuxième remarque, c'est que finalement ce mouvement de solidarité, il est presque par le don, il est à contre-temps, parce que un des effets de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui avait une déduction fiscale plus importante pour le don, à 75%, ça a été, France Générosité a sorti ces chiffres la semaine dernière, une diminution importante des dons qui sont soutenus par les déductions fiscales. Donc les déductions fiscales...
Les dons des riches.
Les déductions fiscales ne sont pas un mal. Elles structurent simplement, il faut avoir une vision raisonnable et nuancée de la réalité d'un don qui est attribué à une personne.
Julien Damon.
Oui, enfin, le sentiment que j'ai sur cette affaire, c'est que d'un seul coup, on se jette sur les riches pour dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? S'ils tentent de faire un peu le bien, il faut quand même rappeler que fondamentalement, ils sont mauvais. » Quand bien même M. Pinault ne serait pas revenu sur sa possibilité de passer par la déduction fiscale, 33 millions d'euros, ça n'est pas rien. Et de toutes les manières, l'État s'est engagé en peu de temps, donc sur 5 ans, à reconstruire Notre-Dame. Donc il aurait dépensé de toutes les façons ces sommes, et ces sommes, il doit bien les trouver par l'intermédiaire de l'impôt. Donc je trouve que c'est une bisbille, une polémique à la française qui n'est pas très judicieuse.
Voilà. Vous dites l'État se serait de toute manière engagé à reconstruire.
Est-ce que justement... Il s'est engagé à reconstruire. Oui. M. Macron a même dit qu'il le ferait en 5 ans, alors que les autres ont mis des siècles, donc il est super fort.
Sauf que ce sera à partir de sommes qui auraient été collectées, notamment par par ces dons qui se manifestent. Est-ce que ça n'illustre pas aussi ce qui est en train de se passer, Julien Damon, la place que prend l'État aujourd'hui dans ce genre de sujet? C'est-à-dire que si l'État disait tout de suite, eh ben, on va reconstruire et on va faire les efforts nécessaires pour reconstruire, il n'y aurait pas besoin d'appeler à cette générosité d'ordre privé, que ça vienne des grandes fortunes ou que ça vienne de personnes plus modestes.
Première remarque, c'est pas l'État qui a fait l'appel aux dons. Les dons sont arrivés tout seuls. Enfin, en tout cas, ont été annoncés d'emblée, seuls, avant que l'État cherche à les organiser, ce qu'il a proposé de faire aujourd'hui. D'ailleurs, votre question, ma deuxième remarque, c'est que l'État prend là le là sur la construction d'une cathédrale, qui est quand même si Notre-Dame appartient comme bâtiment à l'État, quelque chose qui est parfaitement d'ordre privé. Alors, c'est un monument national, etc., etc. Donc, qu'il y ait des contributions privées pour, de congrégations pour soutenir cette opération, c'est plus que légitime. C'est quelque chose qui est dans l'essence même de ce type de monument.
Et d'ailleurs, pour prolonger, là, pour le coup, c'est un phénomène qui, en plus, est un phénomène transnational. C'est-à-dire que dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est que la cathédrale Notre-Dame, comme tout un ensemble d'autres institutions, le château de Versailles, le musée du Louvre, fait appel à des donateurs au-delà des frontières françaises. C'est-à-dire, ce sont concrètement des Américains qui, de passage à Paris, ayant aimé ce monument, créent des structures qui sont fiscalement soutenu par les États-Unis pour abonder dans l'entretien et la rénovation de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est exactement les canaux à travers lesquels... Donc c'est pour ça que la philanthropie, elle permet de voir l'articulation, l'hybridation du public et du privé plutôt que leur opposition, et aussi la transnationalisation d'un certain nombre de transferts et de mécanismes, on va dire, de mobilisation d'élites, on peut les appeler par ce nom-là, je crois, autour de certaines causes.
Mais c'est pourquoi que des élites ? Tout Américain peut donc consacrer une partie de ses propres revenus et donc de ses impôts pour financer des monuments en France. C'est formidable.
Cette solidarité dans la façon dont elle s'exerce, est-ce qu'elle tranche avec la façon dont elle peut s'exercer au sein même de la population française, Nicolas Duvoux? C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un mouvement d'ampleur, même s'il y a des contestations, comme le soulignait Julien Damon. Mais est-ce que les mécanismes de solidarité, les mécanismes de redistribution, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez solide au sein de la société française, ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose assez fragile?
Oui, alors d'abord, et ça je crois qu'on a eu l'occasion de le redécouvrir, y compris pour ceux qui, comme moi, de temps en temps pouvaient le critiquer au moment du discours sur le pognon de dingue, au foot de la séquence sur le pognon de dingue, c'était de rappeler quand même que ce pognon de dingue, c'est-à-dire toutes les sommes considérables qui passent par divers tuyaux de redistribution ou de transfert, que ce soit les transferts de sécurité sociale à travers des cotisations ou à travers la fiscalité. Donc l'ensemble de ces mouvements dans la société française, qui sont considérables, je veux dire, qui sont à près de deux fois supérieurs au budget de l'État. Donc on est vraiment sur des masses financières considérables, de l'ordre d'un tiers de la richesse nationale, avaient pour effet en France de limiter le niveau des inégalités, malgré ce qu'on vient de dire, et le niveau de la pauvreté monétaire. Et donc ça, je pense qu'il faut toujours le rappeler, c'est que on a un système de protection sociale qui, quelles que soient les défaillances, les limites qu'il a, la nécessité de l'adapter aux défis du 21e siècle, c'est vrai, on va sans doute en reparler, a des effets très puissants de limitation des inégalités et de la pauvreté.
Sauf que ça, c'est un système qui est quand même assez largement remis en cause aujourd'hui, Julien Damon.
Pas trop. Alors, ça doit bien faire 30 ans qu'on dit que sous les vagues incroyables du néolibéralisme, tout ceci devrait s'effondrer, mais chaque année, ou presque, il y a davantage de dépenses sociales si on les rapporte au produit intérieur brut.
Quand je parlais de remise en cause, je pensais plus remise en cause dans l'acceptation de ce système.
Ça, c'est tout à fait exact. C'est un gros problème, c'est que nous sommes les champions du monde de la dépense sociale. Alors, on peut se bagarrer à quelques virgules près et à quelques chiffrages d'experts près, mais vous prenez, si ça vous intéresse, votre site internet de l'OCDE, votre site internet de Eurostat, l'INSEE européen, et vous regardez ce que sont les classements des pays. La France est en tête pour ce qui concerne la dépense sociale rapportée au produit intérieur brut. Nous sommes le pays qui consacrons la plus grande partie de sa richesse nationale aux dépenses sociales. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être suffisant, mais ça pose un problème majeur, c'est que nous ne sommes pas contents. Vous allez au Danemark, où les dépenses dépenses rapportées au PIB sont du même ordre, les Danois sont très contents. Et ils vous disent, ceux qui cotisent, c'est-à-dire les gens entre 20 et 60 ans qui sont actifs, vous disent, je suis ravi de rembourser une partie de mon éducation et je suis ravi de préparer une période qui sera celle de la retraite et peut-être de la dépendance. Ils en sont très contents. Nous, nous en sommes furax ou presque et on passe notre temps à se bagarrer. En effet, je crois que ce qui est très problématique, c'est pas tant l'ampleur du système qui est très dense que, eh bien, une idée forte selon laquelle les jeunes, par exemple, ne toucheraient pas à terme des retraites, on serait mal soignés, etc., etc. On a un système qui est dense, qui est plutôt performant, mais curieusement, qui est plutôt mal aimé.
C'est peut-être d'ailleurs une des comment dire une des choses qui ressort de manière très très forte de ce grand débat national. D'après les restitutions qui ont été faites, il faut toujours rappeler hein, que les personnes qui ont contribué à ce grand débat national ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble de la société française. Mais enfin, il en ressort quand même une exaspération fiscale. C'était d'ailleurs déjà l'objet de notre émission avant-hier, Nicolas Duvou, avec l'idée à la fois que les gens payent trop d'impôts et que le système est injuste. Est-ce que ce sentiment d'injustice est ce qui caractérise aujourd'hui le système social tel qu'il est vu par les Français et peut-être le modèle tel qu'il existe aujourd'hui?
Je crois qu'on ne peut pas tenir de discours général sur cette insatisfaction. Le soutien à l'État social, à la redistribution, il reste fort dans les enquêtes. Donc c'est pas le sujet. Par contre, un des enjeux, il y en a deux à mon avis. D'abord, c'est que y compris chez certaines parties de la population qu'on considère comme étant les gagnants de la montée en puissance du système de protection sociale. Les retraités, dont le taux de pauvreté monétaire est très limité par rapport aux autres parties de la population. Ben, dans ces catégories-là, il y a de fait des zones de vulnérabilité autour des petites retraites, autour d'un sentiment de dégradation de l'avenir et des charges qui vont peser. Donc il y a des zones de fragilité qui, en fait, excède la vision qu'on en a d'habitude. Et je crois que ce qui s'est passé dans les derniers mois dans notre société, qui a donné lieu au grand débat, ça a été l'apparition en pleine lumière de parties très fragiles de la société, mais qui remontaient au sens où c'est pas forcément les plus pauvres qui reçoivent des aides de la part de l'État, mais c'est tous ceux qui sont au-dessus des seuils d'éligibilité aux prestations sociales, on va dire les gens qui sont modestes mais pas pauvres, et qui du coup travaillent, ont des pensions de retraite de niveau modeste, ont des charges notamment en termes de logement, ou ce qu'on appelle les dépenses contraintes, que l'INSEE appelle dépenses préengagées, qui pèsent sur leur budget et qui leur empêchent toute marge de manœuvre. Et donc, si vous voulez, le système de protection sociale laisse toute une zone dans une sorte d'insécurité sociale massive et structurelle. Et là, il y a quand même quelque chose qui remet en cause la légitimité des formes d'intervention telles qu'elles existent aujourd'hui.
Est-ce que vous diriez, Julien Damon, que ce ressentiment, il est justifié et donc qu'il suppose que l'on revoie le modèle social français tel qu'il existe? Mais c'est peut-être d'ailleurs, enfin c'est même sans doute ce qui est en cours depuis quelques années, pas forcément d'ailleurs uniquement depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Comme le dit bien Nicolas Duvou, en tout cas je le traduis à ma manière, le sujet des classes moyennes et des classes moyennes inférieures est un sujet central, et ce, par nature, mais en tout cas est un sujet politique devenu central. Ça fait des années qu'on en parle, en disant qu'il y a des risques, sinon d'explosion, du moins d'insatisfaction qui nourrissent des mini-révoltes de ci, de là. Et il est vrai qu'une partie de la population n'est pas assez modeste, pas assez pauvre pour bénéficier des prestations sous conditions de ressources, pas assez riche pour bénéficier des avantages fiscaux, qui ne sont pas seulement les avantages fiscaux pour les plus riches, c'est tout simplement le fait d'être imposable. Si vous n'êtes pas imposable, vous ne pouvez pas bénéficier, si vous avez des enfants, des mécanismes du quotient familial, c'est-à-dire des réductions d'impôts rattachées au fait d'avoir des enfants. Donc c'est absolument pas les très riches, ultra riches dont on parlait tout à l'heure. Et cette classe moyenne inférieure, c'est un peu péjoratif que de le dire ainsi, on pourrait dire cette base de la classe moyenne.
On peut parler des classes populaires, c'est-à-dire les populations ouvriers, employés qui représentent encore 40% de la
ouais,
société.
Bon, très bien. Moi, j'aime pas le mot du tout que le classe populaire, parce qu'après, on va dire les quartiers populaires, etc. Donc, on met tout derrière le populaire. Je sais pas, classe moyenne inférieure, c'est pas joli, classe populaire non plus. En tout cas, c'est cette partie de la population. Bon. Si on les appelle les gilets jaunes, c'est pas très joli non plus, parce que toutes ces classes sociales ne se sont pas mobilisées là. Et puis, les gilets jaunes ont des vertus, mais aussi des défauts, notamment la violence. Donc, je sais pas quel est le meilleur mot pour les désigner. Mais ce qui est tout à fait exact, c'est qu'on a un système d'État-providence qu'on a un peu fait basculer dans les années 80 pour le faire lutter lutter contre la pauvreté et moins contre les inégalités. C'est un système d'État-providence qui était plus centré sur la moyenne et qui s'est déplacé vers les plus pauvres, avec des défauts d'ailleurs, ils ne sont pas parfaitement pris en charge, mais les classes moyennes inférieures, ou classes populaires, pour faire plaisir à Nicolas, eh bien, ne trouvent pas leur argent, leurs bénéfices, leurs équipements, dans ce pourtant en quoi elles cotisent.
D'après ce qu'on peut lire dans la presse, Emmanuel Macron devrait donc annoncer une baisse significative de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous y voyez justement un message, enfin plus qu'un message d'ailleurs, mais en tout cas une mesure adressée directement à ces classes moyennes, Julien Hamon?
Je sais pas trop. Alors, pardon, c'est pas la meilleure des réponses. On devrait dire oui, non.
Non, je sais pas trop. Ça marche aussi.
Ça marche dans les sondages. C'est la bonne réponse. Tout dépend de ce qui va être exactement décidé. L'impôt sur le revenu est une sorte de totem absolument incroyable. L'impôt sur le revenu, ça rapporte 75 milliards d'euros par an. La CSG, ça rapporte 100 milliards d'euros par an. La CSG qui concerne tout le monde et qui concerne l'ensemble des revenus, pas seulement les revenus du travail, les revenus issus des jeux, une partie des retraites, ça pose d'ailleurs pas mal de questions. Cet impôt sur le revenu dont on parle tant ne concerne que la moitié des foyers fiscaux et on se concentre trop là-dessus. Alors, je parle d'une sorte de fétichisme d'ailleurs l'impôt sur le revenu. Personnellement, je pense que une transformation majeure et judicieuse serait d'ailleurs de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG et de ne disposer que d'un seul instrument, la CSG.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Et on s'intéresse ce soir à la question au modèle social français, à la faveur notamment des restitutions du grand débat national, à la lumière de cet élan de solidarité et de générosité engendré par l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous le faisons en compagnie de deux sociologues, Julien Hamon et Nicolas Duvou. La question de la fiscalité, la question de l'impôt, Nicolas Duvou, elle est évidemment constitutive de ce que peut représenter un modèle social. Est-ce que c'est un modèle, justement, le modèle fiscal, qui est un modèle qui mériterait d'être largement réformé parce que générateur, par exemple, d'inégalités et donc de ressentiments?
Le modèle fiscal, je crois qu'il y a deux débats. La question fiscale, qui sert à tout un ensemble de dépenses qui ne relèvent pas nécessairement de la protection sociale. Et puis, ce que Julien Hamon vient d'évoquer, c'est-à-dire les contributions spécifiques, type contributions sociales généralisées, qui, elles, ont pour vocation spécifique de financer la protection sociale. Je crois que dans les débats sur la protection sociale en France, il y a quand même un vrai malentendu qui est que la protection sociale, elle est pour l'essentiel financée par autre chose que de l'impôt, par des cotisations qui sont prélevées sur le travail. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un ensemble de débats sur le coût du travail, notamment dès lors qu'on a une compétition internationale qui s'accroît. La fiscalité, c'est une partie symbolique, et notamment l'impôt sur le revenu, c'est pas une partie symbolique au sens où elle serait limitée, mais c'est une partie qui est particulièrement rendue visible parce que là, il y a une marge de manœuvre de décision politique beaucoup plus forte sur la protection sociale dès lors qu'elle est financée par l'impôt. De ce point de vue-là, moi je crois que les vrais, enfin, il y a plusieurs enjeux dans la refonte du modèle de protection sociale. Et la question du mode de financement, c'est là qu'on va trouver la fiscalité. Et c'est ça une des vraies questions et sur lequel, pour répondre à celle de l'émission, on ne sait pas exactement où veut aller le président de la République. Est-ce que c'est transférer sur la fiscalité une part croissante du financement de la protection sociale, avec quels instruments, ou alors maintenir le rôle structurant des cotisations prélevées sur le travail? Et ça, c'est vraiment la question, à mon avis, une des questions centrales et qui mériterait la clarification, c'est quelle part de la protection sociale on a vocation à faire financer par la fiscalité et quelle part par les cotisations issues du travail. Et en fait, c'est très lié avec ce qu'on pourrait appeler les deux autres, à mon avis, paramètres essentiels, qui sont les paramètres des cibles. Est-ce que c'est les classes moyennes ou est-ce que c'est les plus pauvres? Mais aussi, et ça, le président de la République insiste beaucoup, et je crois qu'il y a derrière ça vraiment un basculement de modèle possible en termes de valeurs et en termes de conception même de l'égalité et des inégalités. C'est au fond, est-ce qu'on dit on va chercher à corriger la pauvreté et les inégalités? Où est-ce qu'on va chercher la mobilité? Pour le dire dans le langage de François Dubet, un autre sociologue, est-ce qu'on privilégie une relative homogénéité des conditions sociales vécues par les gens, ce qui peut supposer du resserrement de la redistribution, ou est-ce qu'on va chercher à promouvoir la mobilité, c'est-à-dire avec des mécanismes d'éducation, de formation, et en disant on laisse les disparités de revenus, par exemple, se accroître. Et je pense que le modèle implicite qui est aujourd'hui mis en valeur, c'est plutôt ce deuxième modèle de l'égalité des chances.
Julien Damon, les réformes qui ont été engagées depuis le début du quinquennat ne permettent pas de répondre de manière claire à ce que serait, si ce n'est le modèle social voulu par le chef de l'État, mais en tout cas des orientations vers quel modèle on se dirige.
Alors, c'est vrai que le président de la République a plusieurs fois parlé d'un État-providence du 21e siècle. Le 21e siècle ayant commencé depuis 15 ans, il y a donc déjà des racines de cet État-providence. Ce qu'il faut regarder, c'est la trajectoire générale du système. Aujourd'hui, vous avez un système qui est financé à 60% par des cotisations et à 40% par de la fiscalité au sein de laquelle on trouve la CSG. Et c'est normal et on devrait aller encore plus loin. Car un des mots qui est important dans tout ce qu'avance le président de la République, c'est le mot d'universalité. Quel est le sujet ? C'est que nous avons une protection sociale dont les racines sont professionnelles. Auparavant, c'est-à-dire en 1945, dans les textes, ce qui était prévu, c'était la protection du travailleur et de sa famille. Si vous n'étiez pas travailleur, vous ne releviez pas de la sécurité sociale. La sécurité sociale s'est généralisée. Et le terme qu'on a trouvé pour dire généralisée, maintenant, c'est universalisé. Vous avez des gens qui ne travaillent pas et qui pourtant sont couverts par la sécurité sociale. Et bien pour financer leur assurance maladie, leur cotisation retraite, lorsqu'ils sont au chômage par exemple, ou lorsqu'ils gardent leurs enfants, il faut d'autres ressources que les seules cotisations. C'est un brin techno, mais quelle est l'idée ? Nous passons d'un système de protection sociale conduit parfois corporatiste, mais qui est professionnel, à un système de protection sociale qui est universel. Il ne faut pas entendre là les cloches de Notre-Dame ou de je ne sais trop quoi avec l'universalité qui serait jolie. C'est un système qui est général. Ce qui a été inventé en 45, c'est pas la sécurité sociale, c'est le régime général dont l'ambition est de se généraliser. Et c'est bien ce qui se passe, par exemple, en matière de retraite, avec vocation compliquée à réaliser, hein, d'avoir un système universel où chaque euro cotisé donnerait les mêmes droits, ce qui n'est pas encore simple à voir venir.
Donc, à partir du moment où on a un système qui se veut universel, on ne peut pas se contenter, en tout cas on ne peut plus se contenter de le financer de la façon dont on le fait. Alors on évoque toujours l'après-guerre et le fameux conseil de la résistance et la construction de l'État-providence tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, même si sans doute il a subi quelques changements. On a toujours un petit peu tendance, j'imagine, à idéaliser ce qu'a pu être ce modèle. Mais en tout cas c'est ça, c'est-à-dire on veut de l'universalité ou alors oui. C'est quoi ? On fait le constat de l'universalité.
Ah, maintenant, le constat de l'universalité. Il y a des sujets, par exemple, si on est technique. En 78, les allocations familiales, pour la première fois, ont pu être versées à tout le monde. Il n'était plus nécessaire d'avoir des cotisations préalablement payées par les employeurs pour avoir des allocations familiales. Donc ça fait 40 ans que le sujet existe, hein, de savoir quelles ressources mobiliser pour financer la protection sociale et comment unifier un peu un système qui est dispersé entre différents régimes. Donc je trouve que le joli mot est quand même celui d'universalisation de notre système.
Nicolas Duvaux.
Oui, une autre manière de dire la tension qui pèse sur notre système de protection sociale, donc, il a une base professionnel. Mais il a été heurté de plein fouet à partir des années 70 et 80 par le chômage de masse. Par le fait qu'une partie de la population est sortie des cadres de la protection sociale. Et de ce point de vue-là, l'objectif d'universalisation, il était évidemment en partie antérieur avec la volonté de généraliser les mécanismes de protection et de couverture de la population, mais il s'est trouvé mis en œuvre d'une manière très particulière à partir des années 80 et 90 quand on a commencé à construire des instruments qui ne sont plus des instruments qui s'adressent à l'ensemble de la population qui travaille, mais à ceux qui sont en dehors des filets et notamment le RMI, puis le RSA et ou la couverture maladie universelle. Et là, c'est intéressant sur cette question de
l'universel. C'est plus vraiment l'universel.
Et ben voilà, c'est de l'universel. Qu'est-ce qui est universel dans la couverture maladie universelle, aujourd'hui dite PUMA ? Eh bien, c'est le fait qu'on va offrir l'accès à un panier de biens pour l'ensemble
Pardon. Mais ça n'existe plus. La CMU a été totalement fondue.
PUMA.
Donc il y a une complémentaire spécialisée. Mais pour le reste, la couverture maladie universelle est fondue, fusionnée dans ce qu'on baptise PUMA. PUMA, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire protection universelle maladie qui nous concerne tous. Nous relevons tous de la PUMA. Un truc marrant, si j'ose dire, on a appelé ça protection universelle maladie parce que si on l'avait appelé protection maladie universelle, le sigle aurait fait
PMU, oui.
PMU, merci, c'est
merci,
déjà pris.
Merci. Mais ceci dit, ça ne remet pas en cause le fond de l'analyse qui est de dire on a quand même un système de protection sociale dualisé avec un pilier assurantiel qui continue à couvrir les salariés qui sont en CDI et qui restent la majorité en stock des salariés en France. Et puis des minima sociaux qui se sont développés pour pallier les trous de ce système de protection sociale qui n'a pas été réorganisé pour affronter les grands défis qui étaient le chômage et puis aussi aujourd'hui, peut-être de manière plus qualitative, le fait qu'on a des trajectoires, des parcours qui sont beaucoup plus heurtés et avec une nécessité de s'adapter à une individualisation des situations, même si les causes sont collectives, les situations sont plus complexes, plus individualisées et donc il faut adapter à la fois à qui on s'adresse et la manière dont on s'adresse aux cibles de l'État social. Donc il y a ensemble de défis, mais qui sont traités par la construction d'une hiérarchie de protection.
Mais Nicolas Duvoux, dans la mesure où ces deux modèles qui sont pas concurrents, mais enfin en tout cas qui sont concomitants, disons, reflètent deux formes de situation, oui. C'est de formes d'organisation dans la société, c'est-à-dire soit on est dans le monde du travail, dans le monde classique avec son CDI, soit on est en dehors de ce modèle-là, soit avec des contrats précaires, soit on est au chômage. On est bien obligé d'avoir deux modèles de couverture différents, non ?
Mais on peut imaginer que cette interdépendance de fait entre ces deux systèmes est un problème, parce que vous regardez le revenu de solidarité active aujourd'hui. Une partie des allocataires de cette prestation sociale financée par l'impôt, elle couvre des chômeurs non indemnisés. Donc à partir du moment où ces mécanismes ont existé, il y a des formes de déversement. On a restreint les critères pour accéder à une indemnisation du chômage et on a organisé le déversement de ces publics vers des prestations moins coûteuses. Et ça, les concepteurs du RMI ont très vite vu dès le début des années 90 que cette prestation qui avait vocation à lutter contre la grande exclusion finalement servait d'indemnisation à des chômeurs. Et juste parce que ça c'est vraiment un point tout à fait crucial. Une fois que les instruments existent, la tentation ou la tendance de la société, c'est de leur faire jouer un rôle beaucoup plus large que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Donc, le RMI était un filet de sécurité ponctuel qui devait s'adresser à des populations limitées et on a ouvert les vannes pour prendre en charge tous les chômeurs non indemnisés. Et si vous regardez ce qui se passe avec la grande invention des dernières années en matière de protection sociale, la prime d'activité. C'est l'État qui verse de l'argent à des travailleurs modestes. Ce qu'on a vu au moment des annonces en décembre, quand le président de la République a fait cette première réponse en termes d'instruments d'action publique à la crise des Gilets jaunes, c'était de dire un coup de pouce au SMIC qui est en réalité un relèvement de la prime d'activité. On élargit la base de ces prestations et ça, c'était pas du tout l'esprit original de cette prestation que d'être un élément de politique salariale.
Julien Lamont, il faut avouer que dans l'esprit de cette prestation, la prime d'activité qui est antérieurement la prime pour l'emploi, c'est un formidable bricolage. Ça a été créé par Lionel Jospin à l'occasion d'une décision du Conseil constitutionnel qui interdisait de moduler la CSG. Pardon, c'est hyper techno, mais quelle est l'idée? Et là où je suis d'accord avec Nicolas, c'est qu'il y a une extension d'un outil dont on n'a pas bien vu ce à quoi il pouvait servir à sa naissance. Plus généralement, au sujet du RSA et des prestations de solidarité, dont il faut répéter qu'elles sont fondamentales pour les personnes concernées, mais qu'elles ne représentent pas grand-chose au regard du modèle social. Elle représente 3% des dépenses. C'est du 20 milliards d'euros par rapport aux 780 milliards d'euros de dépenses de protection sociale. Les retraites sont encore plus, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, pour dire combien le mot de notre émission, le mien par rapport à notre émission sur le modèle social et celui d'universel, le projet qui est annoncé dans le plan pauvreté, dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs, du président de la République, c'est bien de créer un revenu universel d'activité. Et où là, il y a plein de débats techniques sur ce que l'on va bien pouvoir fusionner.
Ce qui peut ressembler à un oxymore, d'ailleurs. Enfin, presque. Enfin, un revenu universel, c'est-à-dire on n'est pas censé
exactement
être en activité pour
je ne sais pas le meilleur titre. J'aime bien le mot revenu universel. Personnellement, revenu universel d'activité ou d'inactivité, c'est problématique parce que donc il ne serait pas forcément universel. Derrière l'idée, il y a celui d'unifier aussi. Hein. Unifier ces diverses prestations parce que il y a, préalablement à la création du RMI en 1988, des changements dans l'assurance chômage. Et en 84, on crée une prestation qui existe toujours, qui s'appelle l'allocation de solidarité spécifique, qui est une voiture balai de l'assurance chômage. Tout ceci fait un truc très brinque-ballant, hein, dont on ne connaît pas forcément très bien tous les tenants et aboutissants quand on est à la manœuvre et surtout quand on est concerné. Et l'idée d'unifier et de simplifier, avec ses visées d'universalité, me semble incarner ce que souhaite faire M. Macron. Et il y a ce qu'il souhaite faire, il y a ce qu'il est censé avoir annoncé lundi et ce qui va se passer et qui va enclencher plein de débats. Mais un des grands sujets, est bien celui de l'universalité.
Encore une fois, on est dans une situation où les grands principes de la protection sociale qui continuent à structurer notre société ont été inventés en 45 et où on a des filets de sécurité qui ont été inventés pour colmater les brèches. Et on le voit sur cette question de l'universalité, il y a un enjeu qui me semble tout à fait fondamental. Si on fait un revenu universel d'activité, ça veut dire qu'il faut faire rentrer dans ce revenu les populations pour qui aujourd'hui la citoyenneté sociale est refusée. Je prends le titre d'un travail de Tom Chevalier, un chercheur à Sciences Po, qui dit en fait on est dans une société dans laquelle l'universalité ne va pas jusqu'au bout et d'aligner la citoyenneté sociale à travers l'éligibilité à des prestations comme le revenu de solidarité active avec la citoyenneté civile, donc d'ouvrir à 18 ans ces prestations. Et ça, c'est vraiment des enjeux d'universalisation qui sont absolument centraux, mais dont on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils rentrent dans les orientations qui sont actuellement conduites.
Alors, dans les orientations, on ne sait pas, parce qu'il a simplement été dit par le président de la République, on va fusionner un maximum de prestations possibles. Après, tous les experts sont avec leurs ordinateurs et leurs bagarres techniques. Mais le sujet sur lequel Nicolas Duvaux insistait, c'est le sujet du RSA, qui est un sujet majeur et très visible. Et c'est vrai que lorsque le Premier ministre, par exemple, récemment, a dit qu'il fallait des contreparties, ou je ne sais pas ce qu'est le terme qu'il avait employé, aux aides sociales, en réalité, il ne parle que du RSA. Et c'est un problème de se ne concentrer que sur le RSA. Le RSA, c'est important pour les personnes concernées, bien évidemment, mais ça n'est qu'une toute petite chose de notre modèle social.
Une dernière chose, dans les annonces qui pourraient être faites la semaine prochaine, dont on parle dans la presse, il y a la possible suppression de l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le modèle social français? Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que notre modèle social peut se passer de l'ENA? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer de ces hauts fonctionnaires qui, aujourd'hui, alors ils sont pas seuls, mais en tout cas, font partie de ceux qui font fonctionner l'État?
En tout cas, mon point de vue, oui, bravo l'artiste s'il annonce cela, parce que dans le 16e arrondissement et à l'association des anciens HEC, le champagne va exploser. Sur les ronds-points, c'est le mousseux qui va exploser. L'ENA est haï, les énarques aussi, malgré l'ensemble de leurs qualités. Alors ça, je ne sais pas si les énarques donnent beaucoup. Maintenant, c'est vrai que au cœur du modèle social français, il y a les services publics à la française, il y a l'État, et pour le servir, il faut des hauts fonctionnaires. Donc, chapeau l'artiste, parce que je pense que les gens seront contents qu'il n'y ait plus d'ENA, mais ça ouvre un gros problème qui est de savoir comment on va remplacer tout ça.
Le politologue Jérôme Fourquet, qui était notre invité avant-hier, a dit ceci, dans un pays qui s'est construit par l'État, dont 45% de la richesse passe par la dépense publique, on aura toujours besoin de hauts fonctionnaires pour faire tourner la machine.
Là, il y a quand même un paradoxe, c'est que s'il y a une seule ligne directrice dans la vision du modèle social que porte le président de la République, c'est de renforcer le rôle de l'État en disant jusque-là, ce modèle laissait de côté, enfin, avait des incohérences et des anomalies, parce qu'il était géré par des gens qui représentent plus grand monde, quoi. Je caricature, mais c'est quand même un peu l'idée. Et donc, sur l'assurance chômage, sur la retraite, si le système tel qu'il est envisagé autour de Jean-Paul Delevoye est mis en œuvre au second semestre, le rôle de l'État dans le pilotage, le gouvernement de la sécurité sociale et de la protection sociale va se renforcer considérablement. Donc le paradoxe, si vous voulez, c'est d'avoir cette annonce qui dit en gros on n'a plus besoin de vos fonctionnaires pour...
C'est pas ce qu'il dit. Il dit on ne veut plus d'ENA.
Le message est celui d'un pilotage par des représentants de l'État. Alors qu'en même temps, le message fondamental des grandes évolutions, et encore une fois, je partage à 100% ce qu'a dit Julien Damon, les grands piliers de la protection sociale, c'est les retraites. Le sujet qui doit préoccuper ceux qui vont réfléchir sur les transferts de la sécurité sociale, c'est les retraites. Et donc, là, il y a quand même un paradoxe parce que le rôle de l'État est destiné à s'accroître.
Et d'ailleurs, très, très rapidement, très brièvement, la réforme des retraites, c'est elle qui permettra de dire, quand elle aura été menée, ce qu'est le modèle social du quinquennat voulu par le président de la République, Julien Damon.
Réponse simple, oui.
Absolument, c'est le seul projet structurant qui soit dans les placards.
Je pense qu'il y en a d'autres, mais passons.
Mais bon, le plus structurant.
C'est sur ces réponses simples et brèves que nous allons nous quitter ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion, Julien Damon et Nicolas Duvaux. Julien Damon, quelle bonne idée, sans proposition plus ou moins saugrenue dans l'espoir de refaire le monde, cet opus. Il n'y a pas la suppression de l'ENA, non, c'est sans idée. Où va la France populaire? Ça, c'est signé Nicolas Duvouet, vous n'êtes pas seul. Au PUF, en coédition avec La Vie des Idées. Tiens, je précise d'ailleurs que puisqu'on a parlé de modèle social, qu'après-demain, nous diffuserons une table ronde que nous avons enregistrée samedi à la Sorbonne dans le cadre du Forum France Culture consacré aux grands enjeux des élections européennes. Et nous nous intéresserons justement au modèle social européen. Existe-t-il? Eh bien, c'est une des questions que nous avons posées à Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, à deux économistes, Agnès Benassi-Kéré et Dany Laurent-Gouala. Merci beaucoup à tous. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Jean-Christophe Brianchon, Virginie Ledieu, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Vallin avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.